série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Nom. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Tu as décidé de me quitter pour aller vivre avec ce négro ? Elle soupire et dit oui de la tête. Puis elle se lève du rebord du lit où elle était assise et fait les 100 pas. Il la regarde faire assis sur une chaise. Oh, arrête avec cette histoire de négro. N'allons tout de même pas reprendre à chaque fois cette discussion. Oui, je te quitte pour aller vivre avec un noir. Et alors ? Lui au moins c'est un homme. Parce que moi, je n'en suis pas un, moi le père de tes enfants. Oh, je t'en prie, arrête. Tu es père, mais nous savons tous deux très bien ce qui en est. Allez, sortons de la chambre. Les enfants doivent nous attendre. Il retrouve les enfants dans la cuisine. Perceval a déjà mis le lait sur le gaz. Galade, lorsqu'il voit sa mère, se lève et va se blottir contre elle. Il est encore petit, il n'a que 9 ans. Après le petit déjeuner, il se retrouve dans le hall d'entrée. Elisabeth a 2 valises à ses pieds. Galade lui dit « Maman, tu t'en vas ? Pourquoi ?»« Je te l'ai déjà dit. Ton père et moi, nous ne nous entendons plus. Alors nous avons décidé. »« Tu as décidé ?» lui dit Perceval. « De vivre chacun de notre côté. » Elle se penche, embrasse Galade, s'approche de Perceval pour l'embrasser, il s'écarte. Elle ouvre la porte, prend ses 2 valises et descend les escaliers. Galade court à la fenêtre. Il la voit sortir de l'allée, grande, mince, blonde, avec un tailleur rose. L'enfant ouvre la fenêtre et crie. Attends, maman, j'arrive. court rejoindre sa mère. Le père n'a rien dit. Perceval le regarde, puis court après son frère. Le père reste dans le hall, sans bouger. C'est aux enfants de choisir. Quelques minutes après, Perceval remonte essoufflé. Il entre, ferme la porte. Il dit à son père, il veut rester avec sa mère. Elle m'a dit de te dire qu'elle te l'amènerait tous les 15 jours. Le père soupire. Pourtant, je l'avais prévenu. Oh, il reviendra bien vite, lorsqu'il verra qu'il sera obligé de faire mimi tous les matins au négro. Il prend son fils par l'épaule et le regarde bien. Perceval lui ressemble, même cheveux, même regard, un peu autoritaire. Un peu maigre aussi, et la taille qu'il faut pour ses 12 ans. Perceval n'a pas le caractère facile, mais cette histoire va peut-être l'assagir et le rapprocher du père. Maintenant, il va falloir nous débrouiller toutes seules. Allez, viens, nous allons aller au magasin, puisque tu n'as pas école aujourd'hui. Le père, Camille, a un magasin de vêtements Cour Lafayette. L'affaire ne marche guère. Il a trop de concurrence et il s'est planté la première saison qu'il a ouvert. Il avait fait ses vêtements tout en violet. Maintenant que sa femme est partie, il n'a qu'une envie. C'est vendre de quitter Lyon, retourner dans son pays, à Saint-André, dans le Vercors. Reprendre le bureau de tabac de son père, qui a décédé et qui est tenu par sa mère. Mais avant de vendre, il faut malheureusement remonter l'affaire, et ce n'est pas facile du tout. Les jours passent. Les déménageurs sont venus prendre une grande partie des meubles que sa femme a voulu amener. La plupart du temps, il garde son fils avec lui pour se faire aider. L'enfant fait les courses, prépare un peu les repas, mais l'enfant est capricieux et n'en fait qu'à sa tête. La plupart du temps, il se sauve courir avec une bande de jeunes qui sont plus vieux que lui. Est inquiet car il se demande ce que peut bien faire son fils au milieu de tous ces jeunes de 15 à 18 ans. Un jour vient dans son magasin une femme de 30 ans, brune, blonde, mince, le teint très clair, elle est habillée d'une robe blanche à pois rouges. « Vous êtes Monsieur Camille Leroy ?»« Oui, madame. »« Je me présente. Françoise Durel, c'est au sujet de votre fils. Il a créé sans le faire exprès un accident à mon fils. Ils étaient tous deux en mobylette et votre fils est arrivé sur le mien. Il avait pris un sens interdit. Ça s'est passé près de chez moi. Ils sont tous les deux chez moi. Les enfants n'ont pas grand-chose, sauf quelques bleus. Mais les mobylettes sont dans un état impossible. » Si vous pouvez venir, monsieur. Oui, bien sûr, j'arrive, le temps que je ferme mon magasin. Mais il y a une chose que je comprends pas, c'est que mon fils n'a jamais eu de mobylette. Ils prennent la voiture de la femme. Elle habite dans un petit immeuble au boulevard des Belges. Elle le fait rentrer chez elle. Les deux garçons s'assient tous les deux dans des fauteuils en cuir beige. Ils ont chacun un verre d'orangeade à la main. Lorsque Perceval voit son père, il pâlit un peu et repose le verre. Camille s'approche d'eux. Vous n'avez rien, les enfants ?
Non, rien, tout juste quelques égratignures, dit Perceval.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mobylette ?
Oh, rien, c'est celle d'un de mes copains, mais ça n'a pas d'importance, elle était vieille et hors d'usage.
Le père prend son fils et dit au revoir et merci.
Deux jours après, il reçoit un appel téléphonique. C'est la femme. Elle lui demande de devenir chez elle pour qu'il puisse régler les frais de l'accident. Il va à son rendez-vous. Elle lui dit ce qu'elle désire comme somme. Il prend son chéquier et fait le chèque en trouvant la somme un peu forte.
Il faut me comprendre, je suis veuve et votre fils a bousillé complètement le billet du mien. J'aimerais pas que vous gardiez un mauvais souvenir de moi. Tenez, monsieur, asseyez-vous. Je vous offre quelque chose, un bourbon, un bourgogne.
Un bourgogne, merci. Camille voit qu'elle est très nerveuse et tremble légèrement. Il se dit en regardant autour de lui que pour une femme qui n'a pas les moyens, elle a un bel appartement et dans quel quartier. Le prix du mobylette ne l'a pas trop la gêner.
Elle lui sert un verre et s'assoit en face de lui. Elle a mis un tailleur serré blanc et une rangée de perles.
« Vous regardez autour de vous, monsieur, mais ceci ne m'appartient pas. Je vis chez ma mère. Oui, je suis veuve. Il y a 5 ans, mon mari est mort de mort violente. Et depuis, je vis seule avec mon fils Thomas, il a 13 ans. C'est le début de l'âge bête. Mon fils a rencontré votre fils dans la rue. C'est la période des mauvaises fréquentations.
Ils sont toute une bande à traîner comme cela. » On ne sait pas trop ce qu'ils font. Je ne dis pas ça pour votre fils.
Camille hausse les épaules.
Je tiens un magasin et je suis seule pour élever mon fils. Mais il ne fait pas que de mauvaises fréquentations, la preuve.
Merci. Camille s'aperçoit qu'une fois qu'elle est parlé, elle s'est détendue. La porte s'ouvre.
C'est le fils de la maison. Il est grand, blond, mince, un visage très enfant. Il court vers sa mère.
Maman, maman, est-ce vrai que nous devons aller chez grand-mère et que nous devons prendre le train pour y aller?
Oui, mon chéri.
Maman, je ne veux pas, je ne veux pas prendre le train. Non, je ne veux pas. Non, non, non.
Arrête, je t'en prie. Excusez-le, monsieur, mais il est très nerveux et il ne supporte pas le train. Mon mari est mort d'un voyage en train. On l'a retrouvé, mort sur la voie. On ne sait pas comment ça s'est produit. S'est-il suicidé ou autre? La police n'a rien pu trouver.
Elle essuie les larmes de ses yeux avec un mouchoir. Camille se lève.
Je comprends votre chagrin, madame. Il se fait tard, je dois partir.
Camille, en entrant chez lui à pied, repense à ce que lui a dit Françoise.
Deux jours plus tard, il reçoit un appel téléphonique.
C'est Françoise. Pour vous faire oublier cette petite affaire, je vous invite à dîner ce soir. Venez vers 20h30. Nous serons seuls. Mon fils sera chez sa grand-mère. Il accepte l'invitation.
Se présente chez elle avec un bouquet. Oh, comme c'est gentil! Puis, elle le mène dans la salle à manger.
Durant le repas, ils font un peu mieux connaissance. Il lui parle de sa femme qu'il a quittée, des difficultés d'être seul. Elle le trouve sympathique. Il a un côté enfant qui plaît beaucoup aux femmes. Après le repas, ils vont au salon.
Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas été avec un homme. Mais malgré l'alcool, il ne s'est rien passé.
Camille, en rentrant chez lui, est furieux contre lui.
Tu vas tout de même pas rester impuissant toute ta vie.
Les semaines passent. Sa femme Elisabeth lui téléphone pour lui dire de venir chercher son fils s'il le désire pour les vacances, car elle et son mari vont partir en Abidjan pendant l'été. Camille accepte. Il va chercher son fils chez sa femme qui habite à Vénissieux-aux-Minguettes dans une HLM.
C'est Galahad qui lui ouvre. Il le fait rentrer. Camille est émue, il ne sait pas s'il doit l'embrasser. Une valise se trouve déjà dans le couloir. Elisabeth vient vers eux. Elle a un sourire un peu crispé.
Bonjour Camille.
Bonjour Elisabeth, vous allez bien?
Oui, je vous remercie.
Elle le fait rentrer dans une pièce.
Se trouvent des tas de tapis à terre, des sièges recouverts de peau de chèvre. Il y baigne une odeur âcre de mouton et de musc. Elle le fait asseoir sur un siège. On entend le chant d'un coq.
Elisabeth lui explique. C'est le coq que nous avons acheté hier. Il est dans la cuisine. Nous le tuerons à midi.
Oui, c'est une vie très écologique. Et Hubert est musulman. Hubert, c'est un prénom pour la France. La porte s'ouvre. Et apparaît trois enfants noirs de 3 à 6 ans. Ce sont les enfants d'Hubert. Sa femme vit au pays. Et il a pris ses enfants que pour quelques jours. Camille est surpris de toutes ces nouvelles. Camille ne sait que faire de ses deux enfants qui passent leur temps à se chamailler dans l'appartement. Il n'avait rien prévu pour les vacances et il est obligé de rester à Lyon. Françoise l'a invité à passer la soirée chez elle. Au cours du repas, Camille lui dit ses problèmes qu'il a gardés les enfants. « Votre magasin ferme en août, je crois. Écoutez, mon fils et nous partons à Biarritz en août. C'est une de mes amies qui nous prête sa villa. Une villa immense au milieu d'un grand parc, piscine, tennis, à deux pas de la mer. Je vous invite, vous et vos deux fils. » Camille refuse. « Mais dites oui, cela me fera plaisir. » Vous me tiendrez compagnie pendant que nos enfants joueront. Allez, dites oui. Il accepte. Le jour du départ est arrivé. C'est Françoise qui vient les prendre, car elle a une plus grande voiture. Le voyage se fait sans incident, un ciel bleu avec un petit vent du nord. Il fait très beau. Enfin arrivé. C'est une vaste et belle demeure du 19e siècle, avec une grande terrasse sur le devant, trois étages, parc, piscine, tennis. Françoise ouvre la porte d'entrée. Il n'y a personne. Les sièges et les meubles sont recouverts de housses blanches. Elle mène tout le monde dans la cuisine et met en marche le réfrigérateur, le gaz, ouvre un sac où se trouvent des boîtes de conserve. Ouvre une boîte de cassoulet. Mets le contenu dans la casserole et fais chauffer. Après le repas rapide passé en silence, Elisabeth les mène dans leur chambre aux étages. Ce sont de grandes chambres meublées à l'ancienne avec de vieux meubles de famille. Matin, après avoir pris leur petit déjeuner, tout le monde, elle, a enlevé les housses et la poussière. Ensuite, ils vont sur la plage. Françoise, une fois que les enfants sont couchés, vont se promener sur un petit sentier qui longe la plage. Au bout d'un moment, ils s'assoivent sur le bord du chemin pour voir la mer et le ciel. La fraîcheur est revenue. Françoise a une robe d'été très décolletée. C'est à cause d'un coup de soleil qu'elle a attrapé sur la plage. Camille est vêtue de blanc. Elle lui dit « Vous ne devez pas regretter d'être venu. Les enfants s'entendent bien. » « Oui, je vous en remercie. » C'est vraiment merveilleux, cette maison, ce paysage. Nous sommes très bien. François se sent excité, le changement de température, cet homme auprès d'elle. Elle soupire. Camille le voit. Vous voulez rentrer? Vous êtes fatigué? Non, ce n'est pas cela. Je pense à ma vie. Ce n'est pas facile de vivre seul. Oui, bien sûr, j'ai mon fils. Mais un fils n'est qu'un fils, ce n'est pas un mari. Cela fait si longtemps que je suis veuve. Il se taise un moment, puis se lève et s'en retourne tout doucement. De temps en temps, sans se parler, ils se regardent. Camille a compris. Arrivé à la villa, avant de rentrer dans leur chambre, ils se disent au revoir. Camille a refermé la porte de sa chambre, il a chaud. Après une minute d'hésitation, il sort de sa chambre en courant. Ouvre la porte de celle de Françoise. Elle est en combinaison à se décoiffer, assise devant sa coiffeuse. Elle se retourne en poussant un cri « Ah !» Camille s'approche d'elle. Elle se lève, il la prend dans ses bras et l'embrasse. Demain, il fait grand jour. Camille se réveille. Il voit qu'il est dans une chambre baignée de soleil. Tout de bois blanc, à terre se trouvent des vêtements. Il est nu sur le lit. Le dessus de lit de satin blanc lui chatouille le nez avec son odeur de rose. Se penche vers lui Françoise, les cheveux défaits, en déshabillé de soie blanc. Elle sourit et lui donne un baiser sur le front. Bien dormi? « Oui, je vais dans la salle de bain. Toi, retourne dans ta chambre. C'est à cause des enfants, nous ne sommes pas mariés. » Elle quitte la chambre. Il se lève et s'habille. Et va dans sa chambre.
Alors, il se jette sur le lit. Le cauchemar est enfin fini. Je ne suis plus impuissant. C'est fini.
Il a les larmes aux yeux.
Les jours passent, calmes et tranquilles. Les enfants sont heureux, ils vont tous les jours à la plage. Un soir, Camille demande à Galahad s'il aimerait vivre avec lui. « Oui, j'aimerais mieux. On est plus tranquille avec toi. Chez le mari de maman, ça crie tout le temps. Et maman ne fait que pleurer. Et puis l'on mange de drôles de trucs. Tu aimerais vivre avec moi alors ? Oh oui !» Camille et Françoise sont de plus en plus attachés l'un à l'autre. Camille, parce que Françoise lui a redonné confiance en lui, en lui redonnant sa virilité. Françoise aime Camille par son côté gentil. Elle était mariée avec un homme qui la dominait un peu trop et qui n'était pas fidèle. Le mois d'août se termine, il faut songer à rentrer. Tout le monde y pense avec tristesse, car chacun va retrouver sa solitude. Biarritz sous la pluie, en début septembre. Adieu soleil, belle villa, plage et douceur humaine. Le retour se fait tristement. Arrivé à Lyon dans la nuit, Françoise dépose Camille et ses deux enfants. Ils ressentent tous une grande tristesse. Trois jours après, Camille reçoit un appel téléphonique de Françoise qui lui dit de venir dîner chez elle ce soir à 20h30. Il accepte. Écoutez, Camille, je sais que ce ne doit pas être à la femme de faire le premier pas, mais nous sommes tous deux adultes. J'ai bien réfléchi. Durant ces dernières vacances, je me suis beaucoup attaché à vous et à vos enfants, mon fils aussi. Alors, si vous le désirez, il se lève de sa chaise, s'approche d'elle, lui prend les mains. « Vous voulez bien m'épouser, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle. Il l'embrasse sur la joue. Ils ont décidé, c'est de préparer les papiers le plus vite possible. Mais avant, il doit prévenir les enfants. Les enfants sont d'accord. Galahad, qui est retourné chez sa mère, a été prévenu et a dit qu'il voulait vivre avec son père. Il l'a dit à sa mère, qui a accepté. Elle est très déprimée d'apprendre que Camille se remarie. Un soir, alors que Camille préparait les papiers pour leur mariage,
Ils sont tous deux assis devant une table basse avec des papiers dessus.
« Tu sais, chérie, tu ne dois pas être surpris si tu vois dans mes papiers que je ne m'appelle pas Dureil. C'est mon nom de jeune fille que j'ai reprise après mon veuvage. Le nom de mon mari est Sérail. »
Camille la regarde effarée.
« Tu m'as bien dit que ton mari avait été tué en train ?»«
Oui.
Vous habitiez où ?»«
Au Saint-Crumelière, pourquoi ?»«
Non, ce n'est pas possible. Non !»
Il se prend la tête dans les mains.
Il revient d'un voyage d'affaires. Il monte les escaliers. Ouvre la porte de son appartement. Tout est sombre. On entend un drôle de bruit qui vient de la chambre. Sa femme est-elle malade ? Il ouvre la porte de la chambre. La pièce est dans le noir. Il voit dans son lit sa femme avec un homme. Il sort de la pièce et ferme la porte sans bruit. N'ont rien entendu et il sort de l'appartement. Descend les escaliers en courant. Dehors, il respire, puis marche sans réfléchir durant des heures dans les rues désertes de la nuit.
La garce, salope, putain, deux enfants et me faire ça, putain, que vais-je faire maintenant? Je vais les tuer tous les deux.
Il a soif, il rentre dans un bar.
De votre fameuse bière.
Tout de suite. Vous voulez une demi-pinte ou une pinte ?
Non, une pinte, voyons. Mon grand-père m'a toujours dit de ne jamais faire les choses à moitié.
Oh, si je comprends bien, vous avez entendu parler de notre bière ?
Non, je suis simplement optimiste.
Attention à Jacques, ses pintes sont assez optimistes, elles aussi. Enlevez donc la mousse dans cette chope et regardez ce qui vous reste.
Il se sent mieux. Depuis midi, il n'avait pas mangé. Après avoir bu 3 verres, il sort du bar. Il est légèrement ivre. Il ne veut pas rentrer chez lui, pas avant demain matin. Aller à l'hôtel dans une chambre inconnue, seul, non. Il décide d'aller rue Mercière coucher avec une pute. Les filles ne sont pas formidables, ce sont toutes des vieilles ou des grosses. Comment font-elles pour avoir des clients ? Elles décident d'aller à Perrache, peut-être là-bas.
est entré dans une brasserie près de la gare. Il commande une choucroute. Il voit une fille en jean délavé, les cheveux longs noirs, dans les 18 ans. Elle se lève pour partir et passe devant lui. « Vous voulez prendre un verre ?» Elle fait oui de la tête et s'assoit. Il lui commande un verre de bière. « Qu'est-ce que vous faites ?»«
Rien. Je voyageais avec un copain et il m'a laissé sans argent. »
Il lui sert encore un verre.
« Vous savez où coucher ? Je connais un petit hôtel pas bien loin d'ici. La chambre est déjà payée. 500 francs, ça te va ?»
Il dit oui de la tête. Ils sortent de la brasserie. Il voit sur le trottoir d'en face sa femme avec un homme qui s'embrasse. Il sort de sa poche 200 francs et dit à la fille de partir. Sa femme quitte l'homme. L'homme prend sa valise qui était à terre et se dirige vers la gare. Il le suit, il entre dans la gare. Il est 2 heures du matin. Il va vers un guichet, il le suit.
Un billet pour Grenoble, s'il vous plaît.
Merci. Première classe.
Merci.
Il demande la même chose et il le suit. Il monte dans le même compartiment que lui. C'est un de ces vieux wagons à vrai compartiment. Il s'assoit en face de lui. L'homme semble avoir dans les 30 ans, brun et bien fait. Le train démarre. Il observe sans rien dire, puis
« Excusez-moi, monsieur, mais il me semble que je vous connais. Pouvez-vous me dire votre nom ?»
L'homme le regarde surpris.
« Mon nom est Patrick Serail.
C'est vous, monsieur, que j'ai vu tout à l'heure dans la chambre de ma femme.
Oui, je m'appelle Camille Leroy. »
L'homme prend peur. « Je suis revenu de voyage 24 heures plus tôt. En rentrant chez moi, je vous ai vu. Mais vous, vous ne m'avez pas fait attention à moi. Vous étiez tellement occupé à faire jouir ma femme sous vous. »
Patrick se bénit. Il ne sait que dire. L'homme se lève. Il titube légèrement, se penche vers Patrick et le soulève. Il est furieux. Il ne sait plus ce qu'il fait. Patrick, surpris, n'a pas eu le temps de réagir.
L'homme l'a soulevé de terre et des deux mains, il le mène vers la porte.
Il lui cogne la tête contre la vitre pour pouvoir le lâcher sans qu'il puisse s'enfuir. Il est assommé.
La porte est ouverte. Il balance le corps dehors. Puis, il ferme la porte, s'assoit et s'endort.
Il arrive à Grenoble, sort du train, dégrisé et apeuré.
Reprendre le train pour Lyon. Revenir chez moi, comme si je revenais de mon voyage. Et surtout ne rien dire.
Il sort de la gare.
C'est presque le matin. Il va dans les toilettes d'un café faire toilette.
Heureusement qu'il n'a pas perdu sa valise dans cette histoire.
Il se range, change de vêtements, prend un café avec des croissants et repart à la gare.
Deuxième classe, secteur B et C. Première classe.
Dans le train, il se dit qu'il vaut mieux continuer à vivre avec Elisabeth comme si de rien n'était. Cela va mieux, chérie. Ça n'a aucune importance que je m'appelle Sérail ou Durel. Cela n'empêchera pas que nous serons heureux. Et puis, une fois mariés, je prendrai ton nom. Série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Nom. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.